Je vous propose la diffusion d'un entretien avec Nedim Gürsel, écrivain turc de réputation internationale, directeur de recherche en littérature comparée au CNRS à Paris et enseignant à l'Institut des langues orientales, qu'on appelle communément l'INALCO. Son dernier ouvrage, « La Turquie, une idée neuve en Europe », paru aux éditions Empreinte, est un véritable plaidoyer pour l'intégration de la Turquie dans l'Union européenne, mais aussi un essai qui relate l'itinéraire d'un écrivain turc en France. Il n'est pas inutile de rappeler que Nedim Gürsel, qui risquait un an de prison, a été acquitté en juin 2009 lors du procès en Turquie qui lui était fait pour avoir pris l'avènement de l'islam comme sujet de roman dans Les Filles d'Allah, qui paraîtra en octobre 2009. On écoute Nedim Gürsel. Nedim Gürsel, bonjour.
Bonjour.
Alors c'est au lycée français d'Istanbul que vous avez découvert la culture française ?
Oui, en effet, j'étais interne au lycée de Galatasaray d'Istanbul, qui est un lycée francophone. Et tard la nuit, dans le dortoir, quand on éteignait la lampe, j'allumais ma lampe de poche pour lire. Évidemment, il a fallu que j'apprenne un peu le français pour découvrir la littérature française. Et c'est ainsi que j'ai lu Baudelaire d'abord, et puis Rimbaud après, que je ne comprenais pas toujours. Et puis, comme c'était dans les années 60, il y avait Camus et Sartre, les deux grandes figures de la littérature française, que j'ai découvertes aussi au lycée de Galatasaray à Istanbul.
Alors, à quoi ressemblait la Turquie en 1971, quand vous l'avez quittée pour la France ?
Alors, en 1971, j'avais 20 ans. Et comme je le dis dans mon livre « La Turquie, une idée neuve en Europe », en me référant à Paul Nizan, je ne laisserai personne dire que c'est le plus bel âge de la vie, car il y a eu, en 1971, le 12 mars 1971, très précisément, un coup d'État militaire en Turquie. Et ma génération a subi une répression. Et moi, je venais d'écrire mes premiers textes dans les revues littéraires de l'époque. Alors, à quoi ressemblait la Turquie à cette époque-là ? Plutôt à un pays autoritaire, mais en même temps, un pays qui était peut-être plus accueillant. Et puis, un pays qui n'avait pas encore déposé sa candidature à l'Union européenne, donc qui ne tenait pas compte, disons, des critères dits de Copenhague à l'époque, mais depuis, la Turquie a quand même progressé pas mal.
Alors, quand vous entendez Nicolas Sarkozy déclarer « si la Turquie était en Europe, ça se saurait », ça vous fait bondir ?
Et oui, parce que le président Sarkozy commence à s'agiter dès qu'il est question de la Turquie. Il peut être contre l'intégration de mon pays dans l'Union européenne, mais avoir un discours si arrogant et pas diplomatique, ce n'est pas digne du président d'un pays comme la France. Mais je crois que maintenant que les négociations d'adhésion continuent, il va peut-être pas changer d'avis, mais il va changer un peu de style.
Alors vous faites un peu dans ce livre l'histoire des peurs européennes face aux Turcs, et elles sont nombreuses ?
Elles sont nombreuses. Je crois que qu'en France, mais aussi dans d'autres pays européens, il y a encore une image erronée et du Turc. Ça renvoie un peu à la mémoire collective des peuples européens, à cette peur du Turc qui était une réalité, certes, jusqu'au siège de Vienne. À l'époque de la prise de Constantinople par les Turcs en 1453, c'était une peur justifiée. Mais aujourd'hui, au début du XXIe siècle, cette peur est quelque peu instrumentalisée par les hommes politiques. Et cela ne me plaît guère, c'est pour cela que j'en parle d'une manière détaillée dans mon livre.
Alors la dissolution de l'Empire ottoman a encore des répercussions aujourd'hui avec Chypre et la question arménienne. Comment vous pensez que ça va pouvoir se traiter dans l'avenir ?
Depuis le sommet de Helsinki, depuis 1999, la Turquie est officiellement candidate à l'Union européenne. Et les pays européens, à l'époque, à l'unanimité, ont décidé de cela. Et puis, en octobre 2005, il y a eu encore une unanimité pour que les négociations d'adhésion avec la Turquie démarrent. Maintenant, il faut que le conflit chypriote soit résolu, car un des 27 États européens, c'est aussi l'État chypriote grec. Ceci, évidemment, pose un problème. La question arménienne est d'une autre nature, je dirais. Il faut aussi que la Turquie surmonte ses tabous. Il faut qu'elle fasse un travail de mémoire. Et la question arménienne, à mon sens, se situe plutôt dans ce cadre-là. Donc ce n'est pas un des critères de Copenhague. C'est la reconnaissance, disons, du prétendu génocide arménien ne peut pas faire partie des critères de Copenhague. Mais sur ce plan, la Turquie a progressé. Avant, c'était un vrai tabou. Et on a parlé de la déportation massive du peuple arménien. Et maintenant, il y a un climat assez démocratique pour en débattre. Donc, il y a des historiens, notamment turcs, comme par exemple Taner Akçam, qui reconnaissent ceci, qui disent qu'il y a, il faut... Moi, je ne suis pas historien, mais ce que je peux dire, c'est qu'il s'agit d'une grande tragédie. Et récemment, sur l'initiative de quelques intellectuels turcs, il y a eu une pétition pour, s'excuser. Et c'est un grand pas en avant. Et j'étais parmi les premiers signataires de cette pétition. Mais la question arménienne ne doit pas être non plus considérée par les États membres de l'Union européenne comme un des critères d'adhésion.
Et c'est ce qui se passe pour l'instant. Est-ce que le nationalisme turc est soluble dans l'Europe ?
Ça, c'est une bonne question, mais aussi une question embarrassante. Je constate malheureusement une montée du nationalisme en Turquie, et cela dû en partie d'ailleurs au rejet de l'Europe, des pays européens. C'est-à-dire, ce discours de rejet a renforcé le camp des nationalistes et le camp des eurosceptiques en Turquie. Cela dit, la Turquie n'est pas le seul pays dans la région où le nationalisme monte. On n'avait qu'à regarder les dernières élections européennes pour constater que le nationalisme, sous ses formes différentes, gagne du terrain dans beaucoup de pays européens. Mais est-ce que le nationalisme turc est soluble dans l'Europe ? Moi, je pense que oui. En tout cas, l'Europe, pour la Turquie, représente aussi plus de démocratie et moins de nationalisme, étant donné qu'il s'agit d'une structure supranationale. Et moi, je pense que ce serait dans l'intérêt des deux parties. Si la Turquie entrait dans l'Europe, l'Europe aurait une politique beaucoup plus conséquente dans la région. La Turquie est un pays important de 72 millions d'habitants. C'est un marché important pour l'Europe. Et puis, pour l'équilibre, n'est-ce pas, régional, la Turquie peut jouer un rôle. Et puis, si la Turquie adhère dans l'Union européenne, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce serait une garantie pour la démocratie turque. Car nous avons connu dans notre histoire récente 3 coups d'État militaires. Et sur ce plan, il faut que la Turquie progresse. D'ailleurs, je dis qu'elle n'est pas prête aujourd'hui, mais il ne faut pas refuser la Turquie. Il ne faut pas lui dire non, il faut lui dire oui, mais.
Est-ce que ce sont les arguments que vous donneriez au peuple français pour l'adhésion de la Turquie ?
Moi, d'abord, j'aimerais que les Français connaissent mieux la Turquie, car ils ont encore des préjugés par rapport à mon pays. Et c'est pour cela que j'ai écrit ce livre, « La Turquie, une idée neuve en Europe ». Déjà, le titre, c'est un clin d'œil à Saint-Just, qui lui avait dit au moment de la Révolution française, « Le bonheur est une idée neuve en Europe ». Eh bien, si les Français changent d'opinion et si les Français, dans leur majorité, souhaitent, comme c'est mon cas, l'adhésion de la Turquie, je suis sûr que les hommes politiques français suivront. Car eux, ce qui les intéresse, c'est les voix de leurs électeurs. Et donc, c'est pour cela qu'il y a tout un travail à faire à ce niveau-là en France. Et ce livre peut être considéré comme ma modeste contribution, disons, à ce travail d'information.
Est-ce que l'Europe pluriethnique que vous défendez, j'espère pas en tout cas, est-ce que c'est un rêve réalisable, cette Europe pluriethnique ?
Malheureusement, l'Europe évolue dans un autre sens. Je n'ai pas beaucoup d'illusions. La guerre en Bosnie a mis fin, à mon avis, à cet idéal. C'est-à-dire, si les différentes communautés ethniques et religieuses de l'ex-Yougoslavie avaient accepté une coexistence, une société où elles pouvaient, comme auparavant, vivre en bonne entente, l'Europe aurait pu évoluer dans ce sens. Mais malheureusement, ce sont les nationalismes qui ont emporté après la guerre, et chacun veut avoir son état-nation, notamment dans les Balkans. Mais ça peut évoluer dans le cadre de l'Europe. Justement, comme la Turquie est le seul pays musulman qui considère qu'il a une vocation européenne, il faut jouer cette carte-là. Il faut jouer cette carte-là par rapport à une autre idée de l'Europe qui serait repliée sur elle-même, une sorte de club judo-chrétien. Heureusement que cette référence à la religion n'existe pas encore dans la Constitution européenne, mais ça peut venir si ça continue comme ça. Par contre, si on accepte la Turquie, et il faut que la Turquie, de son côté, évidemment, adapte les valeurs fondamentales de l'Europe. Dans ce cas-là, l'Europe aura un autre visage, parce qu'elle aura admis en son sein un pays qui vient d'une autre culture, d'une autre tradition, tout en partageant les valeurs. Donc, c'est ça l'idéal, disons, d'une Europe multiculturelle. Mais est-ce réalisable ? Je ne suis pas très optimiste en ce moment, mais nous verrons bien.
Nedim Gürsel, merci. Nous écoutions donc l'écrivain Nedim Gürsel à propos de son dernier ouvrage, « La Turquie, une idée neuve en Europe », paru aux éditions Empreintes.